France Info.
Le 8h30 politique comme chaque matin sur France Info. Bienvenue Marcelo Vesfred, journaliste au Figaro. À mes côtés, bonjour, notre invité Gilbert Collard avec nous, bonjour.
Bonjour.
Député Front National du Gard, vous avez suivi, participé au débat sur la loi de moralisation de la vie publique ces dernières semaines. Elle va de nouveau devoir passer par un vote, ce sera mardi prochain, faute d'accord sur le texte entre députés et sénateurs sur une partie du texte. En tout cas,
notamment la réserve parlementaire.
C'est ce que j'allais dire. Vous m'ôtez les mots de la bouche.
Cette
réserve, vous le trouvez décevant, ce projet de loi? Vous trouvez normal qu'on continue de débattre?
Écoutez, d'abord, je crois qu'il y a une hypocrisie sémantique évidente. Loi de moralisation de la vie politique.
Alors, confiance
qui a été renommée, pour
rétablir la confiance en la vie politique.
C'est pour bien pointer les tâtonnements sémantiques, si je puis me permettre. Alors, dans un premier temps, on a parlé de moralisation, puis de rétablissement de la confiance. Bon. Depuis quand une loi moralise-t-elle? Depuis quand une loi instille-t-elle la confiance? Ce sont les comportements des uns et des autres.
Hein. Mais parfois, la loi permet d'aider à ajuster les comportements.
Oui, mais
on a... Et les comportements ont besoin de la loi pour être modifiés.
Je ne sais pas si vous avez une bonne connaissance de la loi.
Certainement moins que l'avocat.
Mais je peux vous dire qu'on a un appareil répressif qui est colossal. Hein, dites-vous bien que le matin, quand vous vous levez, vous commettez au moins avant midi deux contraventions.
Hein. Bon. Il faut dire que je me lève très tôt, donc voilà, ça doit être pour ça.
Et puis vous avez une tête de délinquant.
Voilà, délit de fait, c'est ça. Fait. Monsieur Collard, est-ce qu'il y a au moins une mesure qui trouve grâce à vos yeux dans cette loi?
La question de la réserve parlementaire, moi je l'ai dit au Parlement quand je suis intervenu. Lorsque j'ai été élu la première fois en 2012, je suis arrivé au Parlement avec l'idée que cette réserve parlementaire était scandaleuse. J'ai eu l'honnêteté de le dire. J'ai même dit, j'ai été comme vous, très con. Bon. J'avais ce préjugé. Et puis, sur le terrain, je me suis rendu compte que la réserve parlementaire, non seulement ce n'est pas du clientélisme, parce que moi, j'ai donné notamment une association de défense de la course camarguaise qui a appelé à voter contre moi, pour la Torera. Bon, vous voyez, donc, on n'achète pas les votes, hein, heureusement, du reste. Hein. Mais je me suis rendu compte que c'était un moyen de venir en aide quand il n'y a plus d'aide.
Mais est-ce que c'est totalement discrétionnaire et surtout c'était très opaque? Est-ce que le refait transparent, c'est pas au moins un progrès?
Non, là je suis obligé de rectifier, ce n'était pas du tout opaque. D'abord c'est sous le contrôle du ministère de l'Intérieur, on décide pas comme ça, hein. Il faut remplir un dossier, il faut le contrôle du ministère de l'Intérieur, il y a une publicité de toutes les dotations, hein. Donc c'est connu, c'est contrôlé. Et encore une fois, je vous dis, moi, si je fais le point sur ma réserve parlementaire, ça m'a permis de doter une mairie d'un panneau électronique qui informe les habitants, d'un pont pour les handicapés, voyez-vous.
Concrètement, ça veut dire que mardi prochain, vous serez à l'Assemblée pour voter contre le projet?
Oui, contre ou m'abstenir. mais allons plus loin si on a 30 secondes. Hein.
Rapidement.
Ce n'est pas par les lois qu'on moralise, c'est par la pédagogie des comportements. Je suis d'accord, par exemple...
L'interdiction des collaborateurs familiaux, une vraie avancée.
Non, mais ça veut dire qu'on peut faire travailler sa maîtresse ou son amant. Alors, la vraie question, c'est est-ce que le collaborateur travaille ou pas? Je me rappelle, en 2013, moi, j'avais proposé qu'on instaure un contrôle systématique du travail des attachés parlementaires. Voilà.
Parce que là,
on peut contourner la loi. Alors, finalement, on est marié, on divorce, on peut embaucher son ex-épouse d'avec qui on a divorcé.
Les députés ont créé une nouvelle peine d'inéligibilité. Je voulais avoir votre avis là-dessus. C'était sur toute personne qui est coupable de discrimination, racisme, homophobie, révisionnisme, antisémitisme.
Alors,
vous approuvez?
Je pose le principe que le racisme est un délit, l'homophobie est un délit. La diffamation liée au racisme et à l'homophobie, de fait, est interprétative. C'est-à-dire que c'est une infraction qui est soumise à l'appréciation souveraine des magistrats. Donc on laisse là une marge de pouvoir interprétatif au juge qu'on ne peut pas accepter dans une démocratie où la liberté d'expression doit exister. Tenir un propos raciste, c'est une infraction. Tenir un propos raciste lié à une diffamation, c'est une infraction. Est-ce que ça doit automatiquement entraîner l'inéligibilité ? Je pense qu'on soumet là, vraiment, compte tenu du caractère interprétatif de l'infraction, les députés à la merci des juges.
On va fermer le dossier de la moralisation, si vous le voulez bien. Gilbert Collard, je voudrais évoquer avec vous un dossier qui avait créé un duel lors du second tour, de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, un dossier qui les avait opposés. Je vous laisse écouter un petit extrait avant qu'on en parle.
Les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, ils ont sauvé des emplois en négociant un accord d'entreprise qui a permis le chômage partiel.
Vous les avez vendus aux Italiens aussi,
mais arrêtez de dire des grandes bêtises.
Bah pardon, vous les avez vendus aux Italiens ? Vous n'avez pas d'esprit national. Vous ne pensez pas à l'intérêt supérieur de la nation. Tout ce qui vise à donner un avantage dans la commande publique à nos entreprises françaises, vous êtes contre.
Alors, trois mois plus tard, Emmanuel Macron a décidé de faire jouer le droit de préemption de l'État sur les chantiers navals, a décidé de nationaliser de manière temporaire, n'a pas vendu STX aux Italiens. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Il a bien fait.
Qu'il a bien fait ?
Il a bien fait, mais...
Et donc, Marine Le Pen avait tort de lui lancer cette accusation ?
Non, parce que je vous fais remarquer que là, il semble pas favorable au principe de nationalisation, hein, au principe de préemption, hein. Si j'ai bien compris ce qu'il dit, on est d'accord, hein. Donc, il se renie quelque peu, là, hein. Il a tenu un propos qu'il vient contredire aujourd'hui par une décision que j'approuve, parce que moi, je ne suis pas dogmatique, hein. Du reste, il fait tellement peu de choses nationalement bien que quand il en fait une, on peut la reconnaître, hein. On ne pouvait pas laisser échapper ce fleuron, c'était impossible. Mais pourquoi, lors du débat... ne le dit-il pas ? Voilà. Là, il y a finalement, c'est, on a l'impression qu'il suit les conseils de Marine Le Pen.
Il faut.
Ce sera votre conclusion sur ce dossier. Gilbert Collard, on continue d'évoquer STX, mais aussi la loi travail, notamment, et l'avenir du Front National, juste après un point sur l'info à 8h40. Léo Chapuis.
Après trois jours de pagaille, le trafic des trains a repris normalement ce matin à la gare Montparnasse à Paris. La SNCF présente ses excuses et s'explique aussi. La panne électrique serait due à une anomalie lors des travaux effectués pour la LGV vers Bordeaux et Rennes. Dans l'actualité aussi, la vague de chaleur qui continue de déferler sur le sud de la France. 12 départements sont toujours en alerte à la canicule. La Corse, notamment la Corse, où le record national de température nocturne a été battu avec quasiment 31 degrés en pleine nuit. Et puis nous sommes début août, le 2 août, et nous avons déjà consommé la totalité des ressources naturelles que la Terre pouvait produire cette année. On appelle ça le jour du dépassement de la Terre. C'est une date symbolique. Elle arrive chaque année de plus en plus tôt et elle montre à quel point l'humanité surexploite la planète.
France Info. La chaleur est accablante également dans le département du Gard, dont vous êtes l'un des députés, Gilbert Collard,
oui, député oui.
Front National. À votre place, hier, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui a souhaité défendre sa réforme. Écoutez.
Une des solutions pour à la fois donner la liberté d'initiative, liberté de créer des emplois, mais aussi de la protection pour les salariés, de la visibilité pour les entreprises, ça passe par le dialogue social. C'est alors, vraiment le cœur de la loi, ça.
Le cœur de la loi, le dialogue social, la sécurité des salariés, vous êtes d'accord ?
Elle est en première ligne, elle, pour la protection des salariés. Hein. On l'a vu avec Danone. Hein. C'est une femme qui sait protéger les salariés.
Elle s'en est défendue également hier.
Ben heureusement qu'elle s'en défend, il manquerait plus que ça, qu'elle ne s'en défende pas, c'est tellement moche.
Elle peut rester en place ?
Non. Franchement, non, puisqu'on voilà, on parlait tout à l'heure de moralisation de la vie politique.
Et vous êtes avocat, c'est légal. Est-ce que la morale, c'est plus important
alors là,
que la légalité ?
Vous posez un problème qui passionne les philosophes du droit. Hein. Est-ce que la morale et la loi font bon ménage ? Ce qui est légal peut ne pas être moral. Mais quand on appartient à un gouvernement qui veut moraliser ou rétablir la confiance, dès qu'un comportement n'est pas conforme à la morale publique, il est de fait moralement sanctionnable.
Est-ce que ça ne veut pas dire qu'alors qu'il faut changer la loi ?
Bah, il faut la loi, on n'arrête pas.
On attend votre proposition à l'Assemblée.
La loi, non, mais j'en ai fait. Vous savez, j'ai quand même fait 30 propositions de loi lors
de la dernière législature. Hein. Bon, là, j'ai compté, c'est 9 amendements proposés.
Non, une également concernant.
Vous entendez moins le Front National, là, oui.
Mais restons là-dessus, si vous voulez. Bon, cette loi travail, elle va avoir un effet dévastateur sur la liberté de vivre dans l'entreprise des salariés. C'est vraiment une loi faite pour le grand patronat. vous allez voir les conséquences dramatiques de cette loi. Je vous donne un exemple. Mmh. Ce qu'on appelle la barémisation. C'est-à-dire le fait que...
Un plancher, un plafond pour les dommages et intérêts.
Voilà, les dommages et intérêts vont être fixés a priori par la loi et le juge ne pourra pas dépasser ce que la loi prévoit. Mmh. En réalité, c'est le procès du Conseil des Prud'hommes. C'est parce que les conseils des Prud'hommes fonctionnent mal. C'est parce que leurs décisions sont systématiquement réformées par les cours d'appel. Il arrive même que des avocats devant le Conseil des Prud'hommes déposent le dossier en disant on ira dans la...
Parce que les cas sont trop nombreux.
Non,
et
parce que c'est
à gérer, parfois.
Parce que ce sont des juridictions corporatistes, syndicalistes et que les avocats le savent. Bon, quand on va devant le Conseil des Prud'hommes, si on est pour le
pour
l'employeur, on perd quoi. Bon, donc très souvent voilà. Et les cours d'appel réforment. Bon, et souvent avec une exécution provisoire. Donc il faut d'abord payer avant que la Cour d'appel puisse, un an et demi après, réformer. Le vrai problème sont les conseils des prud'hommes, mais on n'a pas le courage de le dire. Alors on crée une barémisation. Mais comment peut-on anticiper sur la réalité d'un préjudice tant qu'on n'a pas la matérialité, les contours du préjudice, les conditions dans lesquelles vous êtes licencié, la manière dont c'est préparé, la méchanceté avec laquelle c'est fait, l'injustice avec laquelle cela se déploie. Bon, elle est terrible, cette loi, c'est-à-dire que elle ne permet plus aux juges d'apprécier l'intensité humaine, économique, du préjudice. Tout cela parce qu'on n'ose pas dire les conseils des prud'hommes fonctionnent mal, comme les tribunaux de commerce, du reste.
Il faut les réformer. Les supprimer ?
Pardon ?
Les supprimer ?
Non, les réformer. Les réformer, par exemple, veiller à ce qu'il y ait une présence d'un juge judiciaire pour ça peut arriver en cas de départition, mais il faut qu'il y ait une réforme du Conseil des Prud'hommes. Les avocats, les praticiens le savent, il y a consensus là-dessus. À tel point, je vous le dis, qu'il nous arrive de déposer les dossiers en se disant on ira devant la Cour d'appel dans un an, dans deux ans.
Gilbert Collard, il y a visiblement consensus sur la nécessité de réformer le Front National. Vous faisiez partie de tous
Monsieur
ces
Macron
cadres...
Monsieur Macron n'a pas proposé de loi, là. Hein.
...du parti, non, mais Marine Le Pen a réuni tous les cadres pendant deux jours de séminaire. C'était il y a deux semaines, avant une grande consultation à la rentrée. Si je cite le communiqué final, hein, après deux jours de discussion, il est écrit que de nombreuses propositions ont été émises, suivies de décisions qui seront prochainement communiquées aux adhérents. Vous avez décidé quoi ?
D'abord, je ne peux pas anticiper sur le Congrès, mais il y a la question du nom.
Faut le changer ?
Mais oui, moi je le propose depuis 2012. J'avais même déposé le nom de Front National Républicain, pour les mettre dans la merde quand ils appelaient au Front Républicain. Comme ça, ils auraient appelé à voter pour nous.
Ça n'a pas été retenu ?
Non, ça n'a pas été retenu. Du reste, aucune de mes propositions n'a été retenue, mais ça fait partie de la démocratie. Hein, bon. De la même manière que j'avais proposé qu'on arrête de plaider pour une sortie rapide, immédiate de l'euro. Question qui n'est toujours pas tranchée. Non pas que l'euro soit une bonne monnaie, c'est une mauvaise monnaie. Hein. Nos analyses sont bonnes. Mais l'opinion publique, l'habitus monétaire fait que les Françaises et les Français ne sont pas prêts à un changement de monnaie.
Bon. Est-ce que c'est les Français qui sont pas prêts ou est-ce que c'est tout simplement le Front National et Marine Le Pen qui n'a pas su expliquer aux Français ce qu'ils voulaient faire sur la sortie de l'euro ?
Vous savez, vous avez plus de 100 économistes des prix Nobel qui disent que l'euro est une mauvaise monnaie, mais on est dans ce qu'on appelle l'habitus monétaire.
Si c'était si vrai, c'était simple à expliquer, non ?
Écoutez,
c'est pas ce qui s'est passé au débat, visiblement.
On ne gagne jamais contre l'opinion publique, même quand on a raison. Hein. Quand on a raison. La question de l'euro, elle est devenue un habitus.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et ça n'a pas été le cas lors du débat.
Ça, c'est Boileau qui le disait, mais le texte est très complet, et il faut le lire complètement, parce que...
Revenons au 21e siècle.
Monsieur
Collard, on a l'impression qu'au Front National, vous reportez au calendrier grec, mais le congrès est en mars 2018, toutes les questions clés, comme le nom, vous en avez parlé, l'euro, la ligne. Pourquoi vous mettez sous le tapis la poussière ?
On ne le met pas sous le tapis. On a une organisation juridique qu'on est obligé de respecter. Du reste, les tribunaux nous ont rappelé à propos de Jean-Marie qu'il va aller mieux respecter les statuts. Bon, donc on est tenu statutairement. C'est le Congrès qui peut décider. C'est pas Marine Le Pen, ce n'est pas moi. Et toutes ces questions seront bien évidemment posées, débattues et tranchées.
Il y a une autre question, Gilbert Collard, sur le futur Front National. C'est avec qui Nicolas Dupont-Aignan vous a rejoint au deuxième tour de la présidentielle. Il a une idée pour la suite.
Moi, je veux qu'on unifie avec Debout la France, les Républicains, une partie du Front National, sans les défauts et les excès du Front National, je suis convaincu que le Front National ne gagnera jamais seul comme il est aujourd'hui. Je suis convaincu que les Républicains ne gagneront plus jamais seuls comme ils sont aujourd'hui. Et je pense que dans la vie, il faut s'adapter à ce qui se passe et qu'il faut bâtir un programme commun sérieux.
Il a raison, il faut un programme commun. Écoutez, avec les élus républicains, avec Nicolas Dupont-Aignan et Debout la France.
Avec toute l'amitié et le respect que j'ai pour M. Dupont-Aignan, les défauts et les excès, il les a rejoints. Bon, il les a bel et bien rejoints. Alors il faudrait d'abord arrêter de continuer cette diabolisation. Quels défauts, quels excès, bon...
Il a précisé qu'il n'avait pas de regret de l'avoir fait.
Non, mais il a quand même employé une expression qui l'engage, quoi. Il a rejoint, s'ils existent, les défauts et les excès. Qu'il faille une union des droites dans cette dislocation politique que nous vivons au profit de la Star Academy politique, hein, parce que le Parlement, c'est devenu un truc de télé-réalité, quoi. C'est hallucinant. On a vraiment l'impression que...
Revenons au Front National.
La représentation parlementaire est abandonnée aux mains des administrateurs. Bon. Mais le Front National a un travail de réflexion à faire. Moi, je l'assume, je
mais
le dis.
Mais votre position à vous, c'est quoi?
Oui, mais c'est ma position depuis très longtemps. Bon. Et il faut qu'on définisse un programme qui nous permette de créer une union des droites patriotiques. Une union des droites qui ne marchandise pas la France. Une union des droites qui est capable de défendre un ensemble de valeurs dans lequel on retrouve la souveraineté, le patriotisme, la défense de l'identité, le respect de l'autre dans le respect de la loi.
Derrière Marine Le Pen.
Derrière Marine Le Pen. Vous voulez pas que ce soit derrière Monsieur Dupont-Aignan? Ben lui, ou derrière M. Philippot.
Lui, il propose.
Qui, Philippot ou Dupont-Aignan?
Dupont-Aignan, jusqu'à présent. Oui,
mais il peut... Je veux dire qu'il peut tout proposer, mais il faut quand même la réalité arithmétique. Bon, combien de divisions? Voilà.
Gilbert combien Collard, de divisions? Député Front National du Gard, ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu.
C'est moi qui vous remercie.
En direct ce matin sur France Info. Merci à Marcelo Vesfred. On se retrouve demain pour un nouveau 8h30 politique.